Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Deuxième partie du magazine Okapi Service, comment prévenir les conflits homme-faune en milieu rural de la RDC. Nous en parlons avec le professeur Amundala Drazo, il est spécialiste en faune sauvage. Professeur, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste.
À tout à l'heure. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Et nous attendons aussi vos suggestions, questions et préoccupations dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongona réalise cette émission et Billy Landry Betou est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette seconde partie du magazine Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment prévenir les conflits homme-faune en milieu rural de la RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. La faune sauvage constitue une menace directe pour la sécurité, les moyens de subsistance et le bien-être des habitants des zones forestières de l'Afrique centrale, selon une enquête réalisée journalistique au fait réalisée par les centres Pulitzer publiée en juin dernier. Lorsque les éléphants ravagent par exemple les vastes étendues des champs des paysans, il s'ensuit souvent des représailles contre ces bêtes. Nombre de cas de conflits homme-faune sauvages sont couramment documentés dans les Katanga de Mambré au Congo central, dans la forêt de Mayombe, dans la province de l'Équateur en Ituri et dans d'autres régions forestières de la RDC. Comment prévenir les conflits homme-faune dans les zones forestières de la République démocratique du Congo? Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour freiner ces phénomènes et faciliter la cohabitation homme-faune dans les régions forestières de la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec le professeur Amundala Drazo. Il est expert en faune sauvage. Professeur, que devons-nous comprendre par votre spécialité vous êtes spécialiste en faune sauvage. C'est quoi la faune sauvage?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question et pour m'avoir associé à cette émission combien importante. La faune sauvage, c'est l'ensemble de tous les animaux qui vivent en état naturel dans leur milieu. Lorsqu'on parle de la faune, on voit toutes les composantes, tous les groupes zoologiques qui existent. Les gens ont souvent l'habitude de ne considérer la faune que les groupes de vertébrés. Or, il y a des groupes des invertébrés qui sont du reste très très importants également pour la survie de l'humanité. n'est-ce pas? Mmh. Et donc, lorsqu'on parle de la faune sauvage, on regarde tous ces groupes zoologiques, en partant des invertébrés jusqu'aux vertébrés et jusqu'à l'homme, finalement, parce que c'est l'homme qui est au sommet de l'évolution et qui se considère comme le patron, si vous voulez, de tous les restes, parce qu'il est vraiment au sommet de l'évolution. Et donc, quand on parle de la faune sauvage, on parle de tous ces groupes zoologiques, on y compris, parce que vous savez que l'homme appartient à la famille des hominidés. Et c'est dans cette famille que nous avons d'autres primates, vous voyez? Et donc voilà, c'est ce qu'on peut appeler faune sauvage.
Et à côté de la faune sauvage, il y a également la flore.
La flore également, voilà. Donc il y a la flore hein, et la faune. Ce sont donc deux groupes bien différents, bien distincts aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la systématique aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes. Il y a par exemple les champignons qui étaient considérés avant comme faisant partie intégrante de plantes, des végétaux, mais qui est aujourd'hui considéré comme un groupe à part entière qu'on appelle les fungi. N'est-ce pas? Mais donc ici, nous ne parlons que de la faune sauvage. La faune, c'est donc ces groupes que j'ai dit qui commencent des invertébrés vers les vertébrés et qui se distinguent notamment de végétaux par l'absence de chlorophylle, n'est-ce pas? Dans la cellule de l'homme, dans la cellule de tous les animaux, si vous voulez, de la faune, il n'y a pas de chlorophylle. Voilà.
Et aujourd'hui, professeur, de plus en plus, on est en train de documenter des cas de conflits hommes-faune dans les régions forestières de l'Afrique centrale et spécialement en RDC, et dans les Mayombe, dans les Katanga des Mambré, dans la province de l'Équateur. Quels sont les facteurs qui sont à la base de ces conflits?
Très bonne
qui
question.
Sont documentés.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de causes. On peut citer notamment la transhumance. Qui constitue pratiquement les déplacements saisonniers de différents groupes zoologiques, n'est-ce pas? Il y a également la cause, c'est aussi la réduction de la taille des domaines vitaux des animaux, n'est-ce pas? Parce que vous savez, tous les groupes zoologiques sont des territoriaux, ça veut dire ils protègent, n'est-ce pas, un certain espace dans lequel les individus de la même espèce ne peuvent pas entrer. Et donc, ils ont des tailles des domaines vitaux qu'ils protègent. Et lorsque ces domaines vitaux-là sont violés, les animaux ont tendance à pouvoir aller ailleurs, n'est-ce pas, pour essayer de garder la tête de leurs domaines vitaux. Il y a également la sécheresse, n'est-ce pas? Lorsque dans un milieu donné, les animaux, vous savez, ils doivent avoir de la nourriture, ils doivent avoir de l'eau, etc. Lorsque la sécheresse arrive, et ça pousse les animaux à pouvoir quitter ces milieux-là pour aller dans un autre milieu en vue de chercher de la nourriture et de l'eau, par exemple. Il y a parfois le manque de quiétude. Vous savez, les animaux, ils veulent vivre dans la quiétude. Quand il y a des bruits, quand il y a tous les travaux anthropiques, toutes les activités anthropiques, par exemple, les tronçonneuses, etc. Aujourd'hui, par exemple, l'orpaillage, ça fait trop de bruit et les animaux ne peuvent pas vivre dans un milieu où il fait trop de bruit, n'est-ce pas? Donc, manque d'inquiétude peut faire en sorte que les animaux puissent bouger d'un milieu vers un autre. Il y a la chasse aussi intensive. Lorsque les animaux sentent qu'ils sont menacés, qu'ils sont tués, etc., ils ont tendance à pouvoir quitter un milieu pour aller vers un autre. Mais également, n'est-ce pas, aujourd'hui, la destruction de leur habitat. Lorsqu'ils voient que leur habitat est détruit, les animaux sont obligés de pouvoir quitter ces lieux pour aller chercher un autre milieu beaucoup plus sécurisant où ils ont les ressources naturelles, ils ont les ressources à quantité, de l'eau, etc. pour pouvoir vivre. Voici un peu quelques éléments que nous pouvons citer qui puissent être la base, n'est-ce pas, des déplacements des individus, des animaux d'un milieu vers un autre. Cela n'est pas seulement un apanage des éléphants. Tous les animaux, n'est-ce pas, lorsqu'il y a ces problèmes dont nous venons de faire allusion ici, ils peuvent quitter ces milieux pour aller vers un autre.
En même temps aussi, il y a des villages qui s'agrandissent dans les zones forestières. Ça, c'est aussi un facteur qui favorise ces conflits-là.
Exactement, nous avons parlé des réductions de la taille des domaines vitaux des animaux. Avec la croissance démographique, n'est-ce pas, les gens ont tendance à construire. Et malheureusement, chez nous, hein, franchement, j'ai toujours dit, nous avons un problème. Les ministères de l'aménagement des territoires, ça c'est un ministère très très important qui devait essayer de gérer ces choses-là. Les espaces, n'est-ce pas, on devait dire, par exemple, tel espace est dédié à tel type d'activité, tel espace est dédié à la conservation sur la biodiversité. Cet espace ici constitue le couloir, par exemple, pour relier deux aires protégées, etc. Donc ça, c'est le rôle du ministère de l'aménagement du territoire. Mais malheureusement, on ne sait pas grand-chose par rapport à ces ministères-là et par rapport à ces attributions. C'est donc des choses qui devaient être faites pour que ce genre de conflits n'arrivent pas. Et donc, les constructions des maisons, on ne devra pas seulement s'arrêter au niveau des constructions des maisons, mais dit à partir d'aujourd'hui, sur base de la croissance démographique, nous devons construire par exemple des maisons en étage. Comme ça, nous gagnons dans l'espace, vous voyez. Et donc, ça réduit un peu, n'est-ce pas, l'espace que l'on devait utiliser si jamais on construisait des maisons à taille basse. Et donc, toutes ces choses devaient provenir, n'est-ce pas, du ministère de l'aménagement des territoires qui devait faire un suivi spatialisé. Dire aujourd'hui, par exemple, parce que la communauté congolaise a atteint tel nombre, etc. Qu'est-ce qu'on prévoit d'ici 20 ans lorsque... Voilà, mais c'est des choses qu'on devait véritablement faire au niveau du ministère de l'aménagement pour prévenir ces genres de choses. Malheureusement, ça ne se fait pas. À Kisangani, par exemple, les anciens de Kisangani savent qu'il y avait un endroit, n'est-ce pas, une piste qu'on appelait la route des éléphants. Ça, c'est des choses qui existaient à Kisangani dans les temps. Mais aujourd'hui, si on vous dit c'était ici la route des éléphants, bah, c'est revenu des maisons, etc. Bon, heureusement, malheureusement, pour Kisangani, on a détruit la forêt, mais également le nombre d'éléphants a sensiblement diminué, ou pratiquement ça n'existe plus dans la région. Et c'est comme ça qu'il y a de moins en moins de dégâts. Mais on sait qu'il y avait une route, n'est-ce pas, qu'on appelait ici à Kisangani la route des éléphants, mais ça n'existe plus cette route-là. Ça signifie donc qu'il y a un vrai problème, n'est-ce pas, dans l'aménagement des territoires chez nous. Et si ça continue comme ça, ça va toujours continuer, parce qu'avec l'émergence et la réémergence, par exemple, de toutes les maladies zoonotiques aujourd'hui, c'est entre autres lié, n'est-ce pas, au fait qu'on est en train de pourchasser, si vous voulez, la faune sauvage dans son milieu naturel. Il y a donc beaucoup plus de dégâts qu'on peut l'imaginer.
Et ces corridors écologiques devraient être bien cadastrés, bien délimités et sensibiliser également les communautés locales sur les limites près, parce que ces conflits sont également documentés à proximité ou aux alentours des aires protégées.
Exact. C'est ce que nous disons. Si ces choses-là, s'il y avait un suivi spatialisé au niveau national, ce genre de choses n'arriveraient pas. Ou alors, si ça pouvait arriver, ce serait vraiment à un niveau très minimisable. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on va avec tout ce qui se passe, vous comprenez. Donc, il y a un vrai problème. Tous ces éléments dont nous venons de faire allusion constituent le fondement de ces problèmes-là. Si on n'arrive pas à les résoudre de manière durable, il y aura donc beaucoup plus de problèmes dans les jours qui viennent, parce que la croissance démographique est très très importante en RDC et la gestion des espaces ne se fait pas de bonne manière. Voilà.
Nous allons partir au standard, professeur, parce que dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Comment prévenir les conflits homme-faune en milieu rural de la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestateur de santé ou à un agent de santé communautaire.
Le premier auditeur, il appelle depuis la ville de Bounia. Nous sommes là en Ituri. Il s'appelle Thomas. Thomas Ougeni, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui.
Monsieur Thomas, je vous donne la parole. Est-ce que vous nous recevez?
Bonjour, monsieur Tati, et bonjour à les invités, à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour.
Alors, oui, je vous écoute. Il y a la pluie, je ne sais pas si les thématiques du jour étaient quoi, parce qu'on ne capte pas la radio au Capi ici, pour le moment, parce qu'il pleut abondamment ici. Je ne sais pas si les sujets parlaient de quoi.
Nous tablons sur les conflits hommes-animal hein, dans les zones forestières de la RDC. Parce que de plus en plus, on est en train de documenter des cas de pachydermes, par exemple des éléphants qui vont attaquer, qui vont ravager les champs des paysans. Et c'est là souvent source des conflits entre les hommes et les animaux. Voilà, c'est le sujet qu'on est en train d'établir. Est-ce que vous avez une question particulière par rapport à cette problématique? Malheureusement, la liaison n'est pas bonne, hein, n'est pas bonne avec Thomas qui nous a appelé depuis la ville de Bounia. Professeur, il y a également un travail de sensibilisation qu'il faut mener au niveau des communautés locales afin d'éviter ce genre d'incidents. Parce que les bêtes sont appelées à se déplacer selon les saisons pour aller chercher de l'eau ou à manger.
Oui, effectivement, ça rentre maintenant dans les stratégies de gestion, n'est-ce pas? Là, vous avez parlé de l'application des bons principes des conservations communautaires. Les gens qui vivent autour des aires protégées, il y a des principes, n'est-ce pas, de la conservation communautaire qu'ils appliquent. Par exemple, vous ne devez pas faire les champs de tel ou de tel côté, et les champs, par exemple, de bananiers, etc., vous devez les faire plutôt à une certaine distance pour éviter que les animaux comme les éléphants
qui affectionnent les bananes,
bien,
ouais.
N'est-ce pas? Oui, qui affectionnent bien les bananiers, n'est-ce pas, puissent venir ravager, etc., etc. Donc, c'est des principes, des bases qui sont connus. Et on doit dire, par exemple, autour des aires protégées, il y a des endroits où on ne peut pas faire le champ. Donc, c'est des principes qui sont connus. Mais au-delà de cela, c'est comme je disais, la gestion correcte de l'espace, ça, c'est vraiment, ça, c'est la base. Ça, c'est la base de tout, de la résolution de ces problèmes. Si on arrive à bien gérer l'espace, il y aura de moins en moins de conflits hommes-faune. De moins en moins de conflits. Parce que, n'est-ce pas, les animaux vont rester cantonnés à un certain endroit. Mmh. Et l'homme, n'est-ce pas, parce que la conservation est faite pour l'homme. Mmh. Okay? Oui. La conservation est faite pour l'homme. Ça signifie que c'est l'homme qui doit édicter des lois, c'est l'homme qui doit pouvoir respecter ces lois-là pour qu'il puisse vivre en harmonie avec la faune sauvage, avec la flore, avec toutes les autres composantes de la biodiversité et de l'écosystème. Donc, dans un écosystème où il y a un déséquilibre, et ça pose des problèmes, et c'est l'homme qui en pâtit toujours, n'est-ce pas, pour éviter, n'est-ce pas, ces genres de choses. On doit donc pouvoir avoir géré l'espace de manière correcte. Autour des aires protégées, par exemple, on doit pouvoir mettre des barrières électriques pour éviter que les animaux ne quittent l'étendue prévue dans l'air protégé pour sortir. Mmh. Mais on doit aussi faire des études, des inventaires pour savoir quel est le niveau ou quelle est la densité, par exemple, de telle espèce, etc., etc., pour savoir comment on va bien pouvoir gérer les choses. Mais c'est ce qui manque véritablement chez nous, voyez. Et donc, si toutes ces choses étaient faites, en tout cas, on réduirait de manière substantielle, n'est-ce pas, les conflits hommes-faune.
On retourne au standard, professeur Amundala Drazo. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en faune sauvage. Sam Lem, vous nous appelez depuis la ville de Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour. Bonjour au Capi Service.
On vous donne la parole. Nous parlons des conflits hommes-faune. Que faut-il faire hein, pour éviter ou pour prévenir ce genre de conflits dans les zones forestières de la République démocratique du Congo?
Oui, ma question c'est de savoir s'il existe sur le plan national un plan national de détermination des aires de la faune. Parce que j'ai compris dans notre pays, la faiblesse c'est la planification. Nous voulons réagir lorsqu'il y a problème. Alors qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait problème pour que l'on puisse prévoir une planification. Il faut d'abord que j'aimerais savoir s'il existe un programme, un plan de détermination des aires de faune. Parce que c'est à partir de là que tout doit partir. S'il y a un plan, alors tous les habitants, toutes les zones où il y a des hommes, on saura déjà que cette partie-ci, c'est réservée à la faune et cette partie-là est réservée aux hommes. Parce que s'il n'y a pas de plan, alors là, on est complètement perdu. Parce que maintenant, avec la démographie actuelle, il est difficile maintenant de commencer à déterminer des zones. Mmh. Quand les villages se sont déjà installés et que le chasseur, les habitudes locales sont déjà établies, mmh. et vous venez dire à cette population, voilà, cette zone-là, vous ne devez pas entrer, là, ça fait un problème. Mmh. Je voulais juste savoir, par curiosité, s'il y a déjà un plan exact de détermination de ces aires-là au niveau national.
Merci beaucoup, M. Salem. Nous rappelons que vous appelez depuis la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, nous partons à Lubumbashi pour donner la parole à M. Ismaël. Bonjour et bienvenue dans Capi Service. Ismaël Mumpoli, on vous donne la parole.
Bonjour Tati.
Bonjour.
Bonjour Tati. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est parce que la connexion faisait un petit défaut là, c'est pourquoi. J'ai suivi l'invité, mais il est juste qu'à ceux qui ne vivent pas dans des milieux dont il y a des difficultés, des animaux, des humains. Je pense qu'un animal sauvage est inéducable. Je ne pense pas qu'on peut éduquer cet animal de ne plus ravager un champ ou faire quelque chose. Comme mon prédécesseur a dit, il a fallu qu'il y ait un plan. Vous êtes à côté d'un parc, il faut s'éloigner de plus en plus. Mais il y aura un temps où il y aura la carence à manger pour les animaux, pour les bêtes, là où ils se trouvent là. Ils chercheront à s'immigrer pour aller trouver à manger. Et à manger là, ça sera dans des champs des citoyens. Mais comment faire? Comme mes juifs qui peuvent faire ou nous dire clairement, et qu'il y ait aussi une barrière bien placée pour empêcher les passages de ces animaux vers un milieu de la culture des individus. Et les individus en soi, vous voyez, dans des parcs, dans des milieux culturels, ce sont des endroits là où il y a plus de la fertilité. Et les gens ne peuvent jamais aller très loin que c'est à cet endroit-là.
Oui, parce que la bouse, si la bouse de ces animaux-là fertilise le sol.
Oui, ils peuvent se plaindre, bien sûr, mais ils ne sont pas prudents. Un, ça demande la prudence de la population. Et savoir à cet endroit-là, comme du côté des parcs, des villes et consorts-là, comme il y a des éléphants, il ne faut pas planter des bananes. Si je plante par exemple des cacahuètes, des coins, des patates douces, je ne pense pas que les éléphants peuvent déterrer ou enlever, graiser pour manger, non. Il a fallu qu'il y ait l'adaptation de la culture dans ces lieux-là. Vous avez des palmiers, oui. Imaginez que les éléphants arrachent même des régimes de noix pour manger ça. Il a fallu qu'il y ait une adaptation de la culture. S'éloigner de plus en plus de milliers où les éléphants, où les animaux ravagent un peu la culture. Je vous donne un exemple banal. Nous faisons chaque fois, à chaque année, nous semons des maïs. Bon, nous avons des...
Malheureusement, la liaison s'est interrompue avec l'auditeur de Lubumbashi. Il a presque embrayé dans le même sens que l'auditeur de Kinshasa. Il a avancé son argument dans le sens de l'auditeur de Kinshasa. Professeur, comment répondez-vous à Salem de Kin qui a voulu savoir s'il existe un plan de détermination ou de délimitation des aires de faune en RDC?
À ma connaissance, il existe un plan, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, quelle est l'étendue de tel parc, par exemple, parc des Maïko, on connaît l'étendue, il y a donc une délimitation. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est l'application de ces choses-là. Nous pouvons dire, par exemple, que la réserve de faune à Okapi a une superficie de 10 km2, un exemple banal que je donne. Mais il faut matérialiser ces limites-là. Comme ça, les gens, n'est-ce pas, vont pouvoir savoir, attention, ici, c'est la limite. Mais dans la plupart des protégés de chez nous, ces limites-là ne sont pas matérialisées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que lorsque, pour la plupart, à l'époque, quand on a créé ces aires protégées, c'était dans la politique, si vous voulez, un peu policière. On venait pour dire, à partir d'aujourd'hui, telle étendue devient une aire protégée. On n'avait pas consulté les populations, il n'y avait pas des enquêtes au préalable, si bien que ça pose ces gens des problèmes. On a trouvé certaines personnes là-bas, et alors, vous demandez à ces personnes-là de quitter. Pire encore, vous leur demandez de quitter, mais vous leur dites pas où ils vont partir et vous ne les accompagnez pas. Je donne l'exemple du parc de la Maïko. Il y a les groupes de Simba. qui sont dans les parcs de la Maïko. On a créé les parcs de la Maïko, ces groupes, pour la plupart, étaient toujours là. N'est-ce pas? Parce que le parc de la Maïko a été créé, si je ne m'abuse, en 1972 ou 70, quelque chose comme ça. Mais ces gens-là, ils étaient là bien avant. Alors quand on a créé les parcs, ces gens-là sont restés dedans. Vous voyez? Ils sont restés dedans et ils se considèrent comme véritablement des personnes de là. Alors, le faire sortir, ça signifie qu'il y a un accompagnement. Et j'ai dit, si j'ai cité ces parcs, c'est vraiment parce que j'y ai beaucoup travaillé. Je sais aujourd'hui que c'est grâce à ces groupes, c'est assez paradoxal qu'on peut le croire, c'est grâce à ces groupes que nous avons encore ces terres protégées. Parce que ces groupes se considèrent comme natifs vivants dans ces milieux-là. Ils protègent donc ces milieux contre les intrus. Vous voyez? C'est assez paradoxal, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, mais ça reste un groupe négatif, professeur.
Pardon?
Ça reste un groupe négatif, un groupe armé négatif.
Je suis d'accord avec vous, mais ces groupes-là, parce que leur nombre n'est pas si important, vous voyez? Alors ces groupes protègent, parce que si ces groupes n'étaient pas là, vous savez aujourd'hui dans le pays, les aires protégées n'ont pas les nombres requis des gardes-parcs qu'il faut pour contrôler toute la superficie.
Exactement.
Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Et ça, c'est dans toutes les aires protégées du pays. Et pire encore, ces éco-gardes, pour la plupart, ont déjà un certain âge. Ils sont pas suffisamment équipés, ils n'ont pas de moyens, parce que les gouvernements, soyons sérieux, les gouvernements ne donnent pas suffisamment de moyens pour soutenir ces éco-gardes. Et donc, ça fait des problèmes. Et ça, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai fait beaucoup d'études au parc de la Maïko. On a collaboré plusieurs fois avec ces maïmaï, je l'ai dit. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Et donc, ces maïmaï, ils restent là. C'est un groupe négatif, je suis d'accord avec vous. Pour eux, ils considèrent que c'est leur milieu et ils doivent donc pas les détruire systématiquement. Il y en a bien évidemment des brebis galeuses, etc. Mais pour la plupart, c'est des gens qui conservent véritablement ces milieux-là. Parce que si ces gens-là n'étaient pas là, il y aurait des intrus qui viendraient de toutes parts pour venir véritablement raser. C'est vrai qu'eux aussi, ils causent des dégâts. Mais les dégâts qu'ils causent sont relativement faibles par rapport aux autres. Et nous avons fait des études dans certains milieux ici pour dire que les résultats de nos études ont montré que les autochtones protègent mieux leur milieu que les autochtones. Parce qu'un autochtone, lorsqu'il arrive, il s'est dit, je viens prendre et je rentre chez moi, là où j'ai l'habitude de vivre.
Exactement.
Voilà.
Professeur, et ces problèmes des ayants droit coutumiers ou des gens qui se considèrent qu'ils sont dans l'air, que leur terre, leur ont été dépossédés par l'État congolais des forces, ils se posent un peu presque partout dans toutes les aires protégées de la République.
Exact. Parce que dans le passé, c'était une administration policière. On venait, on disait, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous devez quitter les milieux parce que ça devient un parc. Or, ces genres de choses doivent être faites de manière consensuelle. On doit mettre des enquêtes, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire, les communautés qui vivent là-bas. On doit pouvoir les bouger et quels sont leurs dividendes par rapport à ces aires protégées. Donc, ça devait être fait de manière consensuelle. Et à ce moment-là, lorsque les communautés comprennent bien le sens, n'est-ce pas, de la présence de ces aires protégées, ils vont devenir eux-mêmes, n'est-ce pas, des acteurs pour protéger, pour conserver ces aires protégées. Dans les cas contraires, ils vont tous devenir des braconniers et ça va faire des problèmes. Et c'est ça la réalité dans notre pays.
On retourne au standard pour donner la parole à Monsieur Trésor qui intervient depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Trésor Kaya, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Monsieur les journalistes ainsi que l'invité.
On vous donne la parole.
C'est un sujet captivant en rapport avec la faune, surtout la protection de la faune vis-à-vis des peuples autochtones ou des villages ou de ceux qui habitent dans des milieux ruraux, je peux le dire comme ça. Bon, moi je voulais juste parler un peu par rapport à ce qui concerne le fait des brousses.
Ok.
J'ai beaucoup plus évolué dans le Congo central. Il arrive pendant plus la saison sèche. Donc, mai, juin, juillet, la population ravage la forêt avec le feu. Vous n'avez pas l'idée. Maintenant, je me pose la question, est-ce que cette population-là est vraiment sensibilisée par rapport aux conséquences? Parce que les conséquences n'est pas seulement sur les animaux sauvages, mais il y a aussi les conséquences par rapport à ce qui concerne les sols. L'invité ne va pas me contredire, parce que plus l'effet a des effets très négatifs.
Malheureusement, la liaison s'est interrompue avec M. Trésor qui appelait depuis la ville de Kinshasa. Professeur, Trésor fait allusion aux feux de brousse hein, qui sont souvent utilisés par les communautés en saison sèche pour des raisons de la chasse ou pour fertiliser les sols. Que dites-vous, comment commentez-vous son opinion?
Très bien. Il a parfaitement raison. Mais nous devons circonscrire, n'est-ce pas? Si nous parlons véritablement des régions forestières, de la région des forêts ombrophiles, n'est-ce pas? Là où les arbres ne perdent pas complètement leurs feuilles durant l'année, etc. Et donc, le risque de feux de brousse sont relativement faibles par rapport à des endroits où les arbres perdent complètement leurs feuilles, etc. Et donc là, et surtout dans la région savanicole où il y a de bosquets, des forêts, etc., etc. Mais ceci dit, le problème de feux de brousse reste important. Il a vraiment soulevé un élément très important et ça vaut aussi pour les agriculteurs qui utilisent les feux pour après avoir coupé. Parce que lorsque vous utilisez les feux, le sol, c'est un milieu vivant. Vivant pourquoi? Parce que dans le sol, il y a des êtres vivants, notamment les vers de terre et les autres groupes zoologiques. Nous avons dit dans l'introduction, quand vous m'avez posé la question, la faune sauvage, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ces groupes zoologiques, invertébrés et vertébrés, qui vivent dans leur milieu naturel. Mais donc ici, lorsque vous mettez les feux de brousse, n'est-ce pas? La chaleur, là, tue tous les êtres vivants qui sont dans le sol. Or, les vers de terre, le rôle des vers de terre dans le sol est incommensurable. Parce que si on enlevait dans nos sols ici tous les vers de terre, mais ce sera fini. Parce que les vers de terre font des galeries, n'est-ce pas, dans le sol. Et ces galeries-là permettent justement à ce que l'eau puisse pénétrer le sol, etc., pour qu'il puisse avoir aération et tout. Donc c'est très très important. Il n'y a pas que ces groupes-là, il y a d'autres groupes aussi, n'est-ce pas, des invertébrés qui interviennent. Voilà, qui interviennent pour décomposer les matières organiques qui se trouvent dans le sol, vous comprenez? Oui. Donc c'est très très important. Alors quand vous incinérez, vous créez des vrais problèmes. Et en plus de cela, le fait que quand vous incinérez, il y a ce qu'on appelle le lessivage. Quand il pleut, tous les éléments nutritifs sont charriés dans des cours d'eau.
Et le sol va s'appauvrir.
Voilà, ça appauvrit le sol parce que tous les éléments sont charriés dans les cours d'eau et le sol reste complètement nu. Et donc, si vous venez demain pour faire l'agriculture, il n'y aura pas une bonne production. C'est comme ça que de plus en plus l'agriculture durable, on demande aux communautés de ne pas pouvoir brûler, n'est-ce pas? Il faut laisser la végétation pourrir, etc. Et ça vous sert d'ailleurs d'engrais, finalement.
Oui.
C'est ça l'importance.
On retourne au standard, professeur. Il y a un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kindu. Nous sommes là au Maniema. Il s'appelle Jean-Claude Bouchiri. Jean-Claude, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Jean-Claude, malheureusement, la liaison s'est interrompue. On va essayer de relancer Monsieur Jean-Claude. Professeur, l'auditeur de Lubumbashi, Monsieur Ismaël, il a dit que c'est aussi important de sensibiliser les communautés qui vivent à proximité des aires protégées, des aires de conservation sur le type de culture à recourir chaque saison pour éviter ce genre de conflits. Parce que si on cultive, par exemple, les cultures qui ne sont pas consommées par certaines espèces animales, il y aura moins d'attaque des champs par ces animaux-là.
Exact. C'est ce que nous avons préconisé parmi les solutions. Nous avons dit application des bons principes de la conservation communautaire. Dans la conservation communautaire, on apprend justement aux populations riveraines, n'est-ce pas, de pouvoir adopter certains nombres de principes, n'est-ce pas, qui de fuir en l'homme et là, notamment le type de culture que vous.
La liaison se dégrade. Professeur, on va te rappeler le temps de donner la parole à un autre auditeur qui entre en ligne, qui nous appelle depuis la ville de Kindu. Il s'appelle Paulin. Paulin Mouliro, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Monsieur Paulin.
Merci beaucoup. Bonjour aussi à tout le monde. Oui, allô, bonjour.
On vous reçoit 5 sur 5, allez-y.
Merci beaucoup. En fait, le sujet est tellement intéressant. En fait, moi, je me dis que il fallait que nous revenions encore à la géographie de nos réserves. Étant donné que la création de ces réserves aujourd'hui cause toujours des problèmes. C'est naturel que les conflits soient inhérents à la vie humaine, mais en fait, il y a d'autres conflits qu'il faut résoudre. Parce que les réserves ont été d'abord créées à tout en tenant compte que la population n'était pas assez élevée comme aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, il y a un risque que ces réserves soient encore réexaminées aujourd'hui. Et s'il y a des conflits avec les animaux, bien sûr, c'est parce que aussi qu'il y a la population continue à occuper certains endroits compte tenu de l'augmentation de la population dans certains milieux ruraux comme aujourd'hui. Mmh. Nous prenons par exemple les conflits qui existent entre les habitants de périphérie de la ville de Beni avec les parcs hein, et la ville de et la cité frontalière de Kassindi avec le parc.
Vous faites allusion au quartier Sep Congo à Beni, qui se rapproche de plus en plus à l'air protégé.
Exactement, précisément dans la ville de Beni, c'est un quartier du côté est qu'on appelle Mayangose. L'environnement Mayangose là cause aujourd'hui problème avec les parcs. Et il y a aussi la cité frontalière de Kassim, à la population qui a toujours un conflit avec la réserve de notre parc. Et ça, c'est toujours un problème. C'est parce que la création de ces parcs a été avant qu'il y ait augmentation de la population. Alors, c'est naturel que les animaux cherchent aussi à bien vivre. Il y a aussi des guerres, comme vous êtes toujours au courant, des guerres par-ci par-là. Il y a des groupes armés qui sont là. Et ces groupes armés, avec les coups de balles, et ainsi de suite, les animaux cherchent aussi à se protéger. Mmh. Ils ont aussi tendance à quitter les lieux des fronts, des coups de balles pour chercher des endroits isolés, là où ils vont bien vivre. Et quand ces animaux quittent leur milieu naturel, il faut être responsable. Je crois que les responsables qui gèrent les parcs doivent être responsables, même parce que la loi nous les demande, avertis de l'article 259 et 260. On est aussi responsable, non pas seulement des faits qu'on a causés, mais il y a aussi, on est responsable parce qu'on ne garde pas les animaux. On ne garde bien pas les animaux, on est responsable. Mais ce qu'on a constaté est que quand les animaux essaie de créer des conflits avec la population, les responsables qui sont censés garder les animaux se mettent en avant pour faire l'offensive, pour montrer que ce sont
c'est la population
qui n'a pas bien géré, qui n'a pas bien respecté les parcs. Voilà. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous arrivez au niveau de la prison de Kangwaï à Beni, vous trouverez beaucoup de la population pauvre qui sont arrêtés par les gardes de parcs et par le fait qu'ils n'ont pas respecté soi-disant les réserves des limites. Et c'est ça qui cause des problèmes. On ne peut pas créer toujours des conflits, mais il faut chercher un cadre d'échange permanent entre le responsable qui gère des réserves avec la population qui sont la population agronomique.
Merci beaucoup, Monsieur Paulin Mouliro. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu, au Maniema, que vous nous avez appelé. On reste dans la même région, dans la même province, pour donner la parole cette fois-ci à Jean-Claude Bouchiri. Il est également à Kindu. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, cher ami Tati, et bonjour à toute ton équipe. Et bienvenue à Kindu.
Nous parlons des conflits homme-faune. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce type de conflits? Est-ce que ce genre de conflits sont également documentés dans cette partie du pays, dans les Maniema?
Exactement. Et d'ailleurs, moi j'ai dit cette émission tombe à point nommé. D'autant plus que ça ne fait pas encore plus de 3 jours qu'on vient de constater ces conflits à quelques 60 kilomètres de la ville de Kindu, ici dans le fleuve Congo, entre les hippopotames et les hommes.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je pense que le problème est situé à des niveaux, Tati.
Oui, mais Jean-Claude, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Le premier niveau,
qu'est-ce qui s'est passé, conflit homme-faune, dans la périphérie de Kindu?
Oui, je dis, c'est le conflit entre les hippopotames et les hommes, à l'estuaire de la rivière Loué, qui est le fleuve Congo, dans la chefferie de Matapa, dans le territoire de Kibombo. Moi, je pense, on a constaté qu'il y a eu mort d'hommes. Bon, on dit que non, ce sont les bêtes qui attaquent souvent les hommes. Mais moi, je dis que les bêtes aussi, ils ont droit d'attaquer les hommes. Bon, je ne dis pas, je ne donne pas la raison aux bêtes. C'est peut-être parce qu'ils sont provoqués. Et moi, je situe le problème là. Le problème se situe à des niveaux. Le premier niveau, c'est la non-application de la loi 0014 sur la conservation de la nature. Alors que cette loi a bien dit, là, tout est allé. Et le deuxième problème, c'est comme a épinglé le professeur, votre invité, qui a parlé des problèmes.
Malheureusement, la liaison s'est interrompue à nouveau avec Jean-Claude. Est-ce que vous me recevez? La ligne s'est dégradée avec la ville de Kindu. On va essayer de rappeler...
Allô, Tati?
Nous vous recevons, allez-y. On vous écoute. Allô, Jean-Claude, allô? La ligne se dégrade avec la ville de Kindu. On va essayer de rappeler Monsieur Jean-Claude qui nous a donné un témoignage sur les conflits homme-faune dans la périphérie de la ville de Kindu. Nous sommes là dans les Maniema.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Professeur Amunda Ladrazo, est-ce que vous me recevez? Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, on a suivi deux témoignages. Il y a les premiers, Monsieur Paulin, qui est à Kindu, qui a parlé de la prévalence de ce type de conflits du côté de Butembo, dans le Nord Kivu, Beni et Butembo. Et puis Jean-Claude, hein, dans la même région, qui a dit récemment, qui a évoqué un cas vécu dans la périphérie de la ville de Kindu concernant les hommes et les hippopotames.
Très bien. Ce sont des très bons témoignages qui rentrent pratiquement dans les différentes causes que nous avions données. Par exemple, quand nous considérons les hippopotames, vous savez que les hippopotames sont des animaux qui vivent dans les milieux aquatiques, mais ils sont de temps en temps, n'est-ce pas, sur la terre ferme, mais aussi le long de cours d'eau pour manger la végétation. Allô?
On vous reçoit, allez-y. Nous vous écoutons.
Oui. Je disais que les hippopotames vivent dans les milieux aquatiques, mais ils sortent aussi de temps en temps le long de cours d'eau pour consommer la végétation tendre qui se trouve le long de ce cours d'eau-là. Et du coup, à ce temps, ils sont en contact avec la communauté, l'homme. Et nous revenons encore sur ce que nous avons dit, la gestion de l'espace. Il n'y a que chez nous, par exemple, où nous ne trouvons pas dans les différents cours d'eau les zones de frayeur bien protégées. Les zones de frayeur, c'est donc les endroits où on a conservé, on a mis à part, là où les poissons doivent aller se reproduire. Chez nous, ça n'existe pas.
Des plans dans les cours d'eau qui sont bien délimités pour les hippopotames, par exemple.
Voilà. Et donc, on devait délimiter, on devait savoir... terre multiresources, n'est-ce pas? On sait, par exemple, que les hippopotames sont beaucoup plus concentrés à tel endroit. Et donc, on peut leur laisser un espace pour qu'ils se développent, etc. Les gens les connaissent parce que les hippopotames, par exemple, la matière fécale des hippopotames aide comme nourriture aux poissons.
Aux poissons, oui.
Voilà. Et donc, si on crée vraiment un espace correct pour ces animaux-là, on va résoudre bien des problèmes. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on dit toujours l'aménagement du territoire. Aussi longtemps qu'il n'y aura vraiment pas aussi longtemps qu'on ne mettra pas en application des lois qui sont très bien éditées et qui sont, on ne les a pas vulgarisées, mais aussi les responsables de ces ministères doivent savoir qu'ils ont une très grande responsabilité vis-à-vis de toutes ces choses. Les conflits qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi, entre autres, parce que, n'est-ce pas? Les espaces ne sont pas très bien liés, quoi. Et donc, les conflits en faune trouvent vraiment son soubassement là-bas. Si on arrivait à très bien gérer l'espace, il y aurait moins de problèmes. Il y en aura, c'est sûr, mais on aurait vraiment résolu le gros des problèmes. C'est la même chose aussi avec ce qui se passe dans la, du côté de Beni là-bas. Il y a la croissance démographique, mmh. mais on n'a jamais pensé pour dire, nous avons notre parc, qui du reste est très important. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes pays solution, c'est entre autres à cause de ces parcs-là.
Exactement.
Je crois qu'on est d'accord avec moi.
Oui.
Oui. Mais donc nous devons mettre vraiment des politiques correctes pour éviter, n'est-ce pas, l'empiètement de ces aires protégées par les populations rivières, et aussi essayer de protéger les populations rivières. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Mmh. Pour moi, j'ai dit, lorsqu'on on arrivait à mettre ensemble les ministères de l'environnement, les ministères de l'aménagement du territoire, les ministères des mines, et à la base, c'est les ministères de l'environnement, de l'aménagement du territoire. C'est lui, c'est ces ministères-là qui doit dire, voici l'espace, cet espace, nous l'aidions à telle activité. Étant donné la croissance démographique, nous pensons que d'ici 20 ans, le nombre de Congolais atteindra, je ne sais pas moi, 200 millions, etc. Donc, voici ce que nous prévoyons. Mm. Et ça, c'est des choses très, très importantes qu'on doit pouvoir faire. Malheureusement, on a l'impression que ça, ce n'est pas la préoccupation de nos autorités, malheureusement.
Professeur, on vous garde en ligne. Oui. On vous garde en ligne. Il est temps de donner la parole aux deux derniers intervenants. Il y a qui c'est Jean-Claude Bouchiri qui est revenu, qui a un complément d'information. On vous donne la parole, Jean-Claude. Vous intervenez depuis la ville de Kindu.
Oui, Tati, moi je disais, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse des professeurs. Mm. J'ai dit, pourquoi ça? Parce que tout simplement, tant qu'on n'aura pas, on ne mettra pas en application les lois, nous avons de très bonnes lois en la matière, mais tant que ces lois ne seront pas mises en application, on aura toujours ce genre de problème dans notre pays. Moi je faisais allusion à la loi 0014.
La ligne s'est de nouveau dégradée avec Jean-Claude. Il est encore revenu sur le respect de la loi 0014. Donc on va prendre les derniers auditeurs. Hein. Merci beaucoup Jean-Claude. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. On a déjà compris les fonds de votre pensée. Maître Patrick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour Tati, bonjour à Radio Capi et à tous les auditeurs et surtout aux penseurs.
On vous écoute.
Oui, moi je vais y aller par des questionnements. Mmh. On se demande à qui la responsabilité dans cette ineffectivité du respect de la loi. Parce que, est-ce que nous avons carence de l'arsenal juridique en RDC? Je suis le premier à le dire, peut-être non. Alors nous devons nous poser des vraies questions pour avoir des vraies réponses également. Il s'agit de quoi? Qui aurait la responsabilité de ce macabre dans... tous ces désordres qu'on connaît sur le plan environnemental, le plan sociologique, le plan climatique également. Vous allez tous nous convenir que la responsabilité, comme je le disais tantôt, revient à l'État congolais, parce que c'est l'État congolais qui a le monopole de pouvoir dans le système administratif et système des établissements publics de pouvoir assurer le respect de la loi. Parce qu'il n'y a pas le respect de la loi. Le chef coutumier, les autorités locales et coutumières également se permettent de mettre cette confusion entre le peuple et certains établissements qui devraient protéger l'environnement, faune et flore, et dans tous les domaines. Alors, nous nous présentons comme étant un pays solution, mais ce pays solution n'est pas en mesure d'éradiquer ou d'appliquer ses propres lois. Il se pose un problème de l'inapplicabilité des lois. Et ça, que ce soit opposition ou majorité, nous sommes tous d'accord que l'État congolais ne veut pas assumer ses propres responsabilités, notamment en faisant respecter les dispositions légales et réglementaire en la matière. Nous interpellons le gouvernement au travers également le ministère de l'Environnement, une synergie des ministères, pour que cette question soit prise en question, et cette question prise au sérieux et qu'elle soit débattue et voir des solutions et surtout appliquer les résolutions issues de cette commission mise en place spéciale pour aboutir à une solution. À défaut de ça, nous allons tourner autour de l'an et nous allons dire que le régime en place n'a rien fait.
Merci beaucoup Maître Patrick Oudia. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Professeur Amundala Drazo, comment répondez-vous à Jean-Claude Bouchiri de Kindu qui est revenu sur le non-respect de l'application de la loi numéro 0014?
Je suis complètement d'accord avec tous les auditeurs qui sont rentrés pratiquement dans ce que nous étions en train de dire. Nous avons l'auditeur juriste qui vient de parler ici a dit qu'il y a un arsenal juridique important dans notre pays. Nous avons tout ce qu'il nous faut, mais c'est l'application de ces lois-là qui pose problème. C'est ça le vrai problème. Et qui doit faire appliquer la loi? Vous avez la réponse.
Ouais.
Et donc aussi longtemps qu'on ne fera pas appliquer ces lois-là, en tout cas, à mon avis, rien ne marchera. On sera en train de tourner autour du pot, etc. Et donc, c'est compliqué. Ce sera très compliqué, à mon avis. Et donc, il faut vraiment responsabiliser les gens. Je suis tout d'accord avec les auditeurs, mais c'est que nous devons savoir, les aires protégées, quelqu'un qui est appelé de Béni. La fois, je me rappelle, une fois, on a discuté et pour nos amis de Béni, il faut déclasser certaines étendues. Moi, j'ai dit non. Notre pays est en train de chercher à augmenter la superficie des aires protégées. Mmh. D'où l'importance aujourd'hui, par exemple, des APAC, des milliers de vies des peuples autochtones qui doivent être sécurisées. Parce que s'il y a des aires protégées, et quelqu'un, je me rappelle une fois, lors d'une émission, il a dit, il constate que le peuple pygmée vit toujours en harmonie avec la faune et la flore, etc. Mmh. Et donc, on devra aller vers la propagande de ces étendues-là qui constituent véritablement des aires protégées. Parce que ces communautés-là ont la possibilité de vivre en harmonie avec la faune, avec la flore, etc. Aujourd'hui, la RDC est en train de vouloir étendre, n'est-ce pas, la superficie des aires protégées. Toutes les COP, etc., là où la RDC participe. C'est ça le but. Et ce n'est qu'à ce prix-là que la RDC pourra véritablement dire qu'il est un pays solution.
Et cela doit se faire dans une approche communautaire, comme vous l'aviez dit précédemment. On doit impliquer les communautés locales à la gestion de ces aires protégées.
Tout à fait. Les dividendes, n'est-ce pas, de tout ce qu'on tire de ces aires protégées, en tout cas, doit profiter aux communautés riveraines. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de crédit carbone, même si les choses ne sont pas encore très claires. Mmh. Mais c'est des moyens, c'est des sources vraiment de moyens de subsistance pour les communautés. Il faut que ces moyens-là soient effectivement mis à la disposition des communautés pour que ces derniers arrêtent, n'est-ce pas, pour que ces derniers comprennent d'abord les bien fondés de la conservation de la biodiversité. Et au-delà de tout ça, c'est des services écosystémiques qui, jusque-là, nous ne savons pas évaluer. C'est des choses extrêmement importantes. Mais donc, moi, j'interpelle nos ministres, pour moi, le ministère de l'aménagement du territoire, c'est un ministère clé. C'est vraiment un ministère clé qui devait intervenir pour véritablement juguler ces questions d'une planification et d'un zonage correct pour éviter ces genre de problèmes à l'avenir. Autrement, on va tourner autour du pot et les problèmes vont s'aggraver dans le quotidien. Voilà, avec la croissance démographique qui est très très importante dans notre pays. Donc pour moi, tous les auditeurs qui sont passés et qui sont rentrés effectivement dans ces lignes-là, je pense qu'ils ont raison, ils ont vraiment raison. Il appartient donc à nos dirigeants de pouvoir prendre les choses à bras les corps pour pouvoir faire appliquer la loi, parce que les lois existent en cette matière-là, et ça va pouvoir soulager les communautés qui, du reste, ont déjà des difficultés pour vivre. Mais si on doit ajouter à cela les problèmes des terres et les conflits homme-faune, ça va aggraver leur situation.
Nous les considérons comme votre dernier mot. Merci beaucoup, professeur Amundala Drazo. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en faune sauvage. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Excellente journée à Kisangani. C'est par ici que prend fin Okapi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoku sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Julie Bongoda était à la réalisation et Billy Landry Betou était à la prise des sons. Excellente journée. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service.